ça.
Ah oui, d'accord.
Grâce à ça.
Oui,
si ensuite.
Alors j'ai oublié de préciser aussi que c'est le père Nicolas Buté qui célébrera ensuite la messe à 16h30. La conférence se terminera vers 16h20. Merci.
Bonjour, très heureux de vous voir ici dans cet après-midi. Je découvre cette paroisse, cette église avec une joie inouïe à travers tout ce qui s'y passe, tout ce qui s'y vit. Merci. Tout ce qui s'y passe, tout ce qui s'y vit. À travers les confessions, l'adoration eucharistique, les messes célébrées en ce lieu. C'est un vrai cadeau de voir cette piété qui est là autour. Merci. Merci d'aimer Jésus au Saint-Sacrement. On l'a dit tout à l'heure, je vais parler de l'Eucharistie comme la source et le sommet de la vie chrétienne. Ça paraît assez théorique, parce que si c'était vrai, peut-être que ça se passerait autrement. Il y a une bienheureuse canadienne qui s'appelle Dina Bélanger, qui disait, si on savait vraiment qui est là, il faudrait des gardes du corps pour garder le tabernacle. Parce que les gens se précipiteraient, les églises seraient bondées, on viendrait s'arracher le corps du Christ. Parce que, franchement, on a eu un mariage, vous avez vu Meghan et puis Harry en Angleterre, c'était sympathique, c'était joli. La terre entière était en émoi, oui, mais on a le roi des rois et seigneur des seigneurs qui est là derrière, le créateur du monde, de l'univers tout entier, notre sauveur. C'est quand même plus que les rois de la terre, vous comprenez bien. Et pourquoi on ne vient pas? Et je crois que c'est peut-être un des grands drames de ce temps, voyez-vous, n'avoir pas découvert ce trésor qui nous est donné. Alors, en quoi l'Eucharistie est-elle le sommet et la source et le sommet de la vie chrétienne? D'abord parce que l'Eucharistie nous met en contact avec l'acte le plus fou qui ait jamais existé sur la terre, l'acte d'amour à l'extrême, on ne pourra jamais aller plus loin, c'est-à-dire l'incarnation, Jésus, Dieu, qui se fait petit zygote dans le sein de la Vierge Marie, dans cette jeune fille de 15 ans, à l'Annonciation, quand l'ange viendra annoncer qu'elle va être la mère du Sauveur, que Marie dit son oui à cet appel, à cette vocation, qui commence à ce moment-là et qui s'exprime dans une plénitude au moment de la passion, de la mort du Christ sur la croix, puis de sa résurrection. Et donc, l'Eucharistie nous met en contact avec l'événement central de toute l'histoire de l'univers. Depuis le Big Bang, il y a 14 milliards d'années en arrière, jusqu'à la fin des temps, puisqu'un jour tout cela se terminera ou sera transformé, il y a une charnière, un axe, qui est la passion du Christ, la vie du Christ, l'incarnation et sa passion en particulier, qui est l'acte d'amour qui rassemble toute l'histoire de l'amour de Dieu pour l'humanité, qui exprime et qui concentre toute cette histoire. Or, Dieu voulait tellement que chacune et chacun d'entre nous soit convoqué au pied de la croix pour découvrir cet amour. Vous savez, des fois, j'étais un jour à Montpellier, j'allais donner une conférence, il y avait un jeune qui faisait du stop au bord de la route, et puis je m'arrête, et il me dit, « Ah, tu portes une croix. Tu sais, moi, il y a ma vie qui a changé il y a 15 jours, ben, j'ai vu un mec qui portait une croix. » J'ai dit, « Ah bon, raconte-moi ton histoire. » Alors, il me raconte qu'il habitait dans un squat avec des drogués, comme ça, et puis, lui-même ne se droguait pas. C'est un jeune un peu pauvre, comme ça, un peu simple. Et puis, il était le souffre-douleur de ces drogués. C'est lui qui devait faire tout le sale boulot, qui nettoyait le squat. Enfin, on le battait même, on l'embêtait. Et puis, il disait, le seul moment où j'osais sortir du squat, c'est quand les autres étaient complètement shootés et pétés. Alors, il disait à ce moment-là, je sortais du squat, j'allais dans un petit quartier, il y avait une petite colline. Et sur cette colline, il y avait un poteau énergétique. Et je tenais le poteau dans mes bras, comme ça, je serrais le poteau. Une demi-heure, trois quarts d'heure. Une fois, je suis resté 5 heures scotché au poteau, comme ça. Et puis au bout de 6 mois, les autres m'ont dit, mais tu as le droit de voir la vie en rose, en vert, en rouge, donc donne-moi ton bras, on te fait une injection, tu verras, tu décolles tout de suite. Et lui ne voulait pas ça. Donc là, il s'est enfui, il courait dans la rue de peur que les autres le rattrapent. Et il tendait le pouce, quelqu'un s'arrête, qui dit « Mais tu vas où ?» comme ça. Il dit « Mais n'importe où, je veux partir. » Alors il dit « Rentre dans la voiture. » Et en se tournant vers le monsieur pour voir qui c'était. Il voit qu'il avait un truc bizarre qui pendouillait autour du cou. Un truc comme ça, une croix, voyez. Il dit, mais c'est quoi votre truc, là? Il dit, mais tu ne connais pas? Il dit, non, je ne sais pas ce que c'est. Il dit, ça, c'est le signe de l'amour de Dieu pour nous. Le Dieu auquel je crois, il est mort sur la croix pour nous dire son amour. Et tout d'un coup, dans la tête du jeune, ça lui a fait tilt, le poteau énergétique. Il n'a jamais compris pourquoi il n'y avait pas de fil électrique qui partait du poteau, puis il y avait une grande barre en travers, en haut. En fait, ça faisait 6 mois qu'il serrait la croix dans ses bras sans savoir que c'était une croix. Il ne connaissait rien, et la croix le tenait. Il m'a dit, tu sais, sans ça, eh bien, je serais mort. Et il y avait un rassemblement de jeunes chrétiens un peu plus loin, où j'allais d'ailleurs. Il me dit, ouais, il y a un rassemblement, tu vas aller voir un petit peu, connaître celui qui m'a aimé, qui m'a sauvé la vie. Eh bien, il avait tout compris, voyez-vous. Et Dieu aimerait que chacune et chacun d'entre nous ait ce contact immédiat avec la croix. Thérèse de l'Enfant Jésus voulait être au pied de la croix pour reprendre chaque goutte de sang qui s'écoulait du corps du Christ. Et bien sûr, nous n'étions pas là il y a 2000 ans en arrière au Golgotha. Bien sûr, le Golgotha était géographiquement situé et n'a pas pu se reproduire dans d'autres endroits de la terre. Et donc, Jésus a inventé une manière de nous rendre contemporains de ce grand moment d'amour. Et cette manière, c'est l'Eucharistie. C'est-à-dire qu'à chaque messe, au moment où par la bouche du prêtre, Jésus va dire « Ceci est mon corps livré, ceci est la coupe de mon sang versée », à ce moment particulier de la messe, 2000 ans d'histoire sont balayés, nous sommes réellement, spirituellement contemporains du mystère du Golgotha. Nous sommes à ce moment-là au pied de la croix avec Marie et Jean et avec toute la force et la puissance rédemptrice de salut de la croix, voyez-vous. Et donc, à chaque messe, à chaque consécration, quand ces paroles sont prononcées, il y a ce que Jean-Paul II appelait la contemporanéité. Nous sommes contemporains du mystère de la croix. Il y a eu un amour qui était manifesté, cet amour du Christ, qui était jusqu'à l'extrême. Et c'est comme si, au fil des siècles, la croix s'avançait dans le temps, s'avançait dans l'espace, sur toute la terre, et répandait les grâces du salut. De sorte que Padre Pio pouvait dire « Il est plus facile au monde de survivre sans le soleil que sans le sacrifice de la messe. » Parce que grâce au sacrifice de la messe, eh bien, le monde est porté, le monde est irradié. Le pape Benoît XVI osait cette comparaison audacieuse en disant que le sacrifice de la messe était une fission nucléaire. Vous savez, quand il y a une bombe A qui explose, ça irradie partout. Eh bien là, il y a une bombe A qui explose sur nos autels, la bombe d'amour, qui irradie l'univers et le cosmos de l'amour et qui tient le monde dans son être. Alors, bien sûr, sensiblement, pauvrement, on est dans la douceur du rite liturgique. Et parfois, c'est tellement doux qu'on s'endort même, vous voyez, hein. C'est vrai qu'il y a des cloches, des fois. C'est dans la liturgie byzantine, il y a quelque chose d'assez intéressant. Chaque fois qu'il y a un moment important, pour pas que les gens s'endorment, il y a le diacre qui vient et dit « Soyez attentifs !» Et quand les chanteurs vont un peu trop lentement, il y a le prêtre qui dit « Dynamis !» un peu de force, un peu d'énergie. Voilà. Alors nous, on n'a pas ces rites, parce qu'on est tellement sûr que les latins, nous, on est toujours attentifs, toujours forts, toujours présents, mais peut-être pas. Et donc, il y a, dans la douceur du rite, on est là, tout à l'heure on va participer à la messe, pour ceux d'entre vous qui auront cette grâce de pouvoir y rester, eh bien, c'est vrai que c'est dans une douceur incroyable. J'allais dire que la violence de la croix nous est rendue présente de deux manières. La première manière, c'est le fait qu'il y a une consécration séparée du pain qui devient le corps et du vin qui devient le sang. Et donc, imaginez que vous êtes là et vous appelez la police en disant « Écoutez, je suis en train d'assister à une scène incroyable, il y a un corps d'un côté, il y a du sang de l'autre. Qu'est-ce que je fais ?» On vous dit « Vous ne touchez rien. » La police scientifique va venir. Où êtes-vous? À Saint-Louis-d'Antin? Ah bon? À l'église? Oui. Où ça? Sur l'autel. Moquez-nous. En fait, non. La violence que Jean, Marie, les saintes femmes au pied de la croix ont pu voir du corps torturé du rédempteur de l'humanité, du Fils de Dieu fait chair, eh bien nous, on l'a sous un aspect délicat, mais quand même exprimé sous une violence, dans cette consécration séparée du pain et du vin qui tient le corps et le sang du Christ. Et bien sûr, c'est le Christ ressuscité que nous recevons après, Et de manière très symbolique, le prêtre prendra une parcelle du corps du Christ pour mettre dans la coupe du sang du Christ, pour bien montrer que c'est Jésus, vrai Dieu, vrai homme, avec son corps, son âme, son humanité, sa divinité, ressuscité, vivant, que nous recevons à la communion. N'empêche, au moment de la consécration, il y a cette violence, en quelque sorte, qui est signifiée sous le rite que nous célébrons. Puis la deuxième manière de comprendre cet abaissement, ce Dieu qui descend, vous savez, dans saint Paul aux Philippiens, il dit, mais lui, de condition divine, n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant condition d'esclave, se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. On voit cette vertigineuse descente et on pourrait dire jusqu'à l'hostie. Le prophète Isaïe nous dit que Jésus, le serviteur souffrant, annoncé, n'avait plus le visage d'homme ni les traits d'un fils d'Adam. Bien sûr, à la croix, à la passion, il était défiguré, mais cette parole prend tout son sens lorsqu'il a le look d'un bout de pain et le look d'un peu de vin, l'apparence d'un peu de pain et l'apparence d'un peu de vin. Là, il n'a vraiment plus le visage d'homme, vraiment plus les traits d'un fils d'Adam, et pourtant il est là. Voici l'homme, voici Dieu. Voyez-vous ? Et donc, on pourrait dire que le sommet, l'expression la plus folle de l'amour, elle va se manifester là. On peut même aller plus loin, voyez-vous. L'amour consiste à se donner, à sortir de soi. L'amour, c'est une extase, disait le pape Benoît XVI. C'est-à-dire, je sors de moi, et François rajoutait, et une exode vers les plaies du Christ et vers les plaies des frères et sœurs. Sortir de soi, aller vers l'autre. Eh bien, Jésus a réussi de manière inouïe cette extase, puisqu'il a été capable, le jeudi saint, quand il a célébré la première messe et unique messe de l'histoire de l'univers, rattachée à la passion de la croix, qui sont deux aspects d'un même mystère, d'un amour qui se donne, eh bien, il a réussi à sortir tellement de lui-même que d'être présent en dehors de lui-même sans se quitter lui-même, c'est-à-dire à se rendre présent sous l'apparence du pain et du vin. Et c'est vraiment lui qui est là. Tellement l'amour est extatique. On dit bien sûr que la transformation, j'en dirai un mot tout à l'heure, du pain en son corps et du vin en son sang, un bout de pain qui devient Dieu, un peu de vin qui devient Dieu, vous imaginez, c'est complètement fou comme histoire. Eh bien, bien sûr, c'est la toute-puissance de Dieu qui est manifestée là, dans une délicatesse de la simplicité. Mais en même temps, c'est aussi la folie de l'amour du cœur humain du Christ, qui veut tellement aimer, qui va laisser cette propre chair qui a lavé les pieds des apôtres, son propre sang qu'il va verser tout à l'heure à Gethsémani, au jardin, en suant du sang dans l'angoisse qui le torture, qui va donner ça à ses apôtres comme nourriture. Voyez-vous ? Ça, c'est l'amour qui sort de lui-même, qui se donne jusqu'à l'extrême, et qui se donne, j'allais dire, en chair et en os, en réalité. Voyez-vous ? Alors, le sommet, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, je suis en contact direct, immédiat, réel, avec le plus grand acte d'amour jamais vécu. Et la messe, c'est ça. C'est pour ça que la messe est tellement importante, voyez-vous ? C'est ça que la messe est tellement importante. Peu importe que ce soit une grande célébration avec 3,5 millions de personnes, comme le pape en a célébré parfois, ou 5 millions à Manille, il y avait des JMJ là-bas, ou que ce soit une petite messe dans une chapelle privée, un prêtre tout seul, comme ça, quelque part. J'ai un ami, Mgr François-Xavier Nguyen Van Thuan, qui était cardinal, qui a passé 13 ans en prison au Vietnam, et quand il a été arrêté, il a demandé une bouteille de vin contre les maux d'estomac. Tout le monde a compris qu'il voulait célébrer la messe en cachette. Et donc, dans sa prison, seul, avec, disait-il, une miette de pain qu'il avait récupérée, 3 gouttes de vin et 1 goutte d'eau, dans sa main qui lui servait d'autel, de patène, de calice, il célébrait l'Eucharistie. Et après, il communiait comme ça. Il disait, et je savais que c'était comme ça que je portais tout mon diocèse, et tout le monde est offrant aussi ses propres souffrances, ses propres tortures, sa propre solitude avec le Christ pour le salut du monde. Et ça, c'est... J'ai la grâce d'aller régulièrement en Chine et au Tibet, comme ça, et pendant longtemps, dans cette région-là, il y a des villages qui n'ont pas eu de prêtre pendant 60 ans, et dans certains, il y avait une messe une fois par année quand j'y passais. Et c'était tellement étonnant de voir les gens venir pour recevoir le pardon de Dieu. Alors là, c'est aussi... commencer les confessions à 6 heures du soir. On m'avait dit, à 8 heures, il y a la messe. Alors, très bien, à 8 heures moins 5, je m'arrête. Je suis suisse, j'ai des horaires habituellement. Et là, le responsable de la paroisse me dit, mais vous faites quoi? Puis je dis, ben on va essayer. Eh bien, mais non, il y a encore tous ces gens qui ne sont pas confessés. Ah oui, effectivement. J'ai dit, on fait comment? Il me dit, ben, d'abord le pardon et ensuite on célèbre la messe. Ils ont une fois par année, ils ne peuvent pas les communier autrement. Ah, je dis, vous avez raison, d'accord. Donc, on s'élève en confession jusqu'à 9h, 9h30, comme ça. 9h30, terminer les confessions. Il me dit, bon, alors on va, messe prévue à 8h. Hein. Il dit, bon, alors on va se préparer pour la messe, un chapelet. Ils ont déjà fait 7 ou 8 avant, avec les litanies. Donc, un chapelet de préparation, on commence la messe à 10h. Et là, alors tout d'un coup, voilà. Et puis ensuite, on rend grâce après. Vous voyez, une faim et une soif de recevoir le corps du Christ. Une faim et une soif de venir à ce moment où Dieu donne son amour. Voilà, nous sommes à la source même de toute la vie chrétienne, à la source même de toute la vie, notre vie personnelle. Nous sommes tous renés à la croix du Christ, dans le baptême de sa mort et de sa résurrection. Et donc, c'est là véritablement que nous expérimentons le trésor de l'amour de Dieu qui se donne à nous. Deuxième aspect, deuxième raison pour laquelle c'est la source, parce que justement, ce corps, ce pain devenu le corps du Christ, ce vin devenu le sang du Christ, est vraiment Jésus qui est là. C'est vraiment, il n'a pas le look, il n'a pas l'apparence, il a l'apparence d'un bout de pain, d'un peu de vin, mais c'est lui qui est là, réellement présent. J'ai un ami prêtre qui est à la retraite maintenant, qui était jeune savant de messe avant le concile, avec un prêtre très pieux, mais un peu handicapé. Et au moment de l'élévation, le prêtre avait élevé le corps du Christ, posé sur la patène, et puis pour faire la génuflexion, il avait mis les deux coudes sur l'autel, de sorte que quand il s'est relevé, l'hostie était rentrée dans la manche, plus d'hostie sur la patène. Le pauvre curé paniqué dit au servant de messe, « Bon sang, il est où le bon Dieu ?» Et le servant de messe, tout fier qu'on lui pose une question de catéchisme, c'est dans... Catéchisme en question-réponse, c'est « Où est Dieu ?» La réponse, c'est « Au ciel, sur terre et en tout lieu. » Donc, il se dresse et fièrement dit « Au ciel, sur terre et en tout lieu. » Et le curé dit « Non, pas celui-là, l'autre. » Il savait qu'il n'y avait qu'un seul bon Dieu, bien sûr. Mais « Où est Dieu ?» Au ciel, sur terre et en tout lieu, et particulièrement en son corps eucharistique. Et particulièrement. Il a choisi. Bien sûr, il est partout. C'est au jour au catéchisme. Un prêtre qui dit, mais où est Dieu? Alors, on dit, moi, je sais, il est au ciel, oui, très bien. On dit, moi, je sais, il est dans mon cœur, bravo. L'autre dit, mais moi, je sais, il est dans la petite maison, oui, le tabernacle. Oui, très bien. Moi, je sais, il est au milieu de nous, parce que quand deux ou trois sont réunis en mon nom, il est au milieu. Il dit, moi, je sais, monsieur le curé. Il est où? À la salle de bain. À la salle de bain? Pourquoi tu dis ça? Ben, parce que tous les matins, quand maman, elle fait sa toilette et que papa, il attend devant la porte, il dit, bon Dieu, t'es encore là? Alors, il est là dans la vie quotidienne. Il est spirituellement, réellement là, avec nous. Mais il est spirituellement, réellement et corporellement présent au Saint-Sacrement. Et ça, ça change tout. J'allais dire, on peut même, ce Dieu invisible qui est partout, on pourrait même le géolocaliser. Il est là, réellement présent. Ce qui faisait trembler de joie le bienheureux Charles de Foucault, qui dit, mais tu es là à quelques centimètres de moi, je te vois et je te regarde et je peux t'adorer. Quelle merveille de pouvoir poser mes yeux sur toi. Ça, c'est le grand mystère de cette présence réelle, corporelle du Christ, voyez-vous. C'est pour ça que c'est très important à l'adoration eucharistique de regarder Jésus. L'adoration est née. Et au moment où on a eu des doutes sur la présence réelle, à partir du XIe siècle, XIIe siècle, comme ça, et le peuple, les savants, les théologiens, le pape, ont réagi en proclamant en 1215 un dogme au IVe concile de Latran qui s'appelle la transsubstantiation. Pour dire que la substance du pain est transformée en la substance du Christ, son humanité, sa divinité, que Jésus est réellement présent, et qu'il n'y a plus de pain, plus du tout de pain, il n'y a que l'apparence du pain. Voilà. La même chose pour le vin. Mais le peuple de Dieu a réagi un peu différemment. Quand on leur a dit, certains théologiens ont dit, c'est pas lui qui est là, alors comment a réagi le peuple de Dieu? Eh bien, montrez-le nous, on veut le voir. allez-y. Et donc on a commencé à faire le rite de l'élévation, qui parfois durait une heure. En Angleterre, on a des récits qui nous montrent que pendant une heure, le prêtre à l'élévation, à la messe, tenait l'hostie comme ça. Il y avait un servant de messe sous chaque bras. Il y avait le sacristain qui mettait un drap noir derrière pour que l'hostie blanche ressorte bien. Et puis le turiféraire, celui qui mettait l'encens, qui mettait de l'encens. Et de temps en temps, on lui disait, mais arrête avec ta fumée, on ne le voit plus. L'école s'interrompait pour aller voir Jésus et on repartait après. Alors, j'ai dit, non, ça ne va pas. Prenez manger, prenez buvez. Donc, il faudrait peut-être séparer cette faim et cette soif de voir Jésus en la situant en dehors de la messe, comme prolongation de la communion et comme préparation, action de grâce et préparation dans le désir de la communion suivante. Et donc, on a commencé l'adoration comme ça, le désir de voir Jésus. Et on comprend, voyez-vous, parce que l'amour, si vous voyez deux amoureux, je ne sais pas si j'ai déjà vu des amoureux, ils se regardent, on dit qu'ils se dévorent du regard, se mangent du regard. C'est ça l'amour, il suffit d'avoir vu le regard d'amoureux pour comprendre qu'il y a quelque chose. Et si un couple qui vient, parfois nous accueillons des couples en difficulté, ils se regardent plus, voyez-vous, ils regardent la pointe des orteils. Ils regardent vers nous, mais ils ne se regardent plus. L'humoriste Raymond Devos disait « Moi, avec ma femme, au début, on était tellement timide qu'on n'osait pas se regarder. Maintenant, on ne peut plus se voir. » Voilà, l'amour, c'est le regard, voyez-vous. L'amour des parents regardent leur enfant. Et même quand ils dorment, c'est extraordinaire. Ils sont admiratifs. Une fois que la journée, c'est un peu plus excité, c'est plus difficile. Mais quand ça dort, voilà, il y a un regard posé sur l'enfant, comme ça, voyez-vous, il y a un regard d'amour. Eh bien, ça, c'est l'adoration eucharistique. Ça, c'est la présence réelle. Je vais le regarder. À un point, voyez-vous, à un moment donné, au moment de l'élévation, tout le monde baissait la tête. Or, le pape Saint-Pie-X a dû faire un truc incroyable. Il a dû même attacher une indulgence à toute personne qui, au moment de l'élévation, lèverait les yeux vers Jésus en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Pour apprendre aux gens, on dit, mais regardez-le, il vous aime, il craque. Il veut que vous le regardiez, il faut que vous levez les yeux vers lui. Comme acte d'amour, tu es là, Jésus. J'étais un jour avec un petit enfant de 5 ans, devant le Saint-Sacrement, qui regardait comme ça, à genoux, juste devant l'autel, et dit, Jésus, toi tu ne me vois pas, mais moi je sais que c'est toi qui es là. Et tout d'un coup, il y a cette intuition certaine que c'est lui qui est là. Et donc, derrière l'Eucharistie, il y a ce corps à corps, cette chair à chair, ce regard. Il se donne à nous à manger. Dans le discours sur le pain de vie, dans le chapitre 6 de Saint Jean, Jésus dit, il venait de multiplier les pains en nourrissant 5000 personnes, on a récupéré des corbeilles, il traverse le lac de Tibériade, on sait bien qu'il n'a pas pris la barque, il n'a pas pu faire le tour à pied, il a dû marcher sur les eaux. Il arrive à Capharnaüm, et là, tout d'un coup, les gens le cherchent. Ils le cherchaient d'autre côté, d'ailleurs. Il dit, mais pourquoi tu as changé de côté ? Ben, j'ai autre chose à vous apprendre. Vos pères dans le désert ont mangé la manne, ils sont morts. Moi, je vais vous donner le pain descendu du ciel, un vrai pain descendu du ciel. Ah bon, alors là, c'est génial. Plus besoin d'aller faire des courses. Non, pas comme ça. Ce pain descendu du ciel, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Alors là, les gens, ils apprécient pas trop le truc. Et ça commence à rouspéter. Et je pense que le directeur de communication de Jésus a dû être un peu gêné, parce que jusque-là, ça marchait bien. Et là, tout d'un coup, il est en train de susciter une colère chez les gens, en disant, mais il est fou, donner sa chair à manger, son sang à boire. Et le point que je voulais relever, c'est le suivant. Quand il s'agissait de manger, comme ça, c'est un verbe grec, qui est le verbe normal qu'on utilise pour manger. Quand les gens se fâchent, Jésus va utiliser à 4 reprises, l'Esprit Saint met sous la plume de Jean ses paroles sur la bouche de Jésus, un autre verbe qui se désigne, qui veut dire broyer avec les dents en faisant du bruit. Ce qu'on a appris de ne pas faire quand on était petit. Voyez ? Si vous ne mastiquez pas la chair du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. Ce qui veut dire qu'il s'agit plus simplement de manger, mais Jésus, au moment où les gens disent « mais c'est de la folie », insiste sur le réalisme de manger la chair du Fils de l'homme pour avoir la vie en soi. Ce verbe n'est jamais utilisé dans l'Écriture sainte, si ce n'est une fois chez saint Matthieu, dans un sens très négatif. C'est plutôt l'attitude en utilisant pour des animaux, comme ça. Et une dernière fois chez saint Jean, c'est quand il est dit « celui qui partage le pain avec moi, qui mange le pain avec moi », au chapitre 13, parlant de la trahison de Judas, voyez-vous. Voilà, pour montrer le réalisme de cette manducation de la chair du Fils de Dieu. Alors, voyez-vous, le sommet, c'est que tout d'un coup, je peux voir Dieu dans ce sacrement qui nous a laissé comme signe de sa présence, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Quand les apôtres, les disciples d'Emmaüs, marchent avec lui sans le reconnaître, ça c'est un petit peu l'humour de Jésus. Chaque fois qu'on le voit ressuscité, on le prend pour le jardinier, on le prend pour un étranger débranché qui n'a pas ouvert Facebook ce jour-là et qui donc ne sait pas ce qui s'est passé à Jérusalem. Tu es bien le seul qui ne sait pas ce qui s'est passé à Jérusalem. Tu ne suis pas les news, tu n'as pas ouvert la télé, tu ne suis rien, l'actualité. Racontez-moi. Mais Jésus de Nazareth, un homme grand qui faisait des prodiges et des signes, voilà, puis il est mort. Oh, il y a bien des femmes qui nous ont dit qu'il était ressuscité, mais allez croire les ragots. Et tout d'un coup, il fit mine d'aller plus loin, reste avec nous, demeure avec nous. C'est un verbe très important chez saint Jean. Et tout d'un coup, il prit le pain, il leur donna, et il disparut à leurs yeux. Oui, parce que sa présence était là, parce qu'il était là, et eux qui étaient fatigués trouvent l'énergie de recourir à Jérusalem, annoncer le scoop. On l'a vu en chair et en os, on a même mangé sa chair et vu son sang. Et je dis, mais nous aussi, on l'a vu. Donc le scoop, il est un peu coupé là, malheureusement. Mais ils se retrouvent tous dans la joie de celui qui est présent au Cénacle, là où il a institué l'Eucharistie et là où il va lui donner l'Esprit Saint. Donc vous voyez, c'est la rencontre personnelle, directe, avec Jésus. Son corps, son sang, qu'on peut manger. Et manger, c'est lui qui nous assimile, c'est pas nous qui l'assimilons. Vous savez, manger quelque chose à midi, la nourriture a été transformée en vous-même. Et vous avez reçu l'énergie de cette nourriture. Quand nous mangeons le corps de Jésus, quand nous buvons à la coupe de son sang, c'est nous qui sommes transformés. C'est lui qui nous assimile, c'est lui qui nous éveille, qui nous élève, c'est lui qui nous divinise, qui nous verbifie, disait un père de l'Église, saint Athanase. Voilà. Nous sommes transformés de l'intérieur par cette communion. Et quand nous venons l'adorer, comme on l'a fait tout à l'heure, comme on le fera encore après, eh bien vraiment, nous sommes attirés, aspirés. Il est, comme disait le prophète Malachie, le soleil de justice qui porte en ses rayons notre guérison. Dans notre communauté, le père le disait tout à l'heure, nous accueillons des jeunes qui ont passé par la drogue, l'alcool, la dépression, la violence. Et je suis bouleversé de voir comment... C'est là que se situe tout le mystère, voyez-vous. C'est là que se situe tout le mystère, quand ils viennent au pied de Jésus. C'est un jour d'un jeune qui m'attrape le soir, Nicolas, je ne tiens plus. Je vais aller ce soir chercher de l'héroïne, je vais partir. Je vais t'avertir, je vais être cash avec toi, je vais être franc. Je me casse et je ne peux pas continuer comme ça. Je dis, écoute, moi je ne peux pas te retenir de force. Par contre, je peux faire une chose, si tu es d'accord, on va tous les deux à la chapelle devant Jésus. Et on reste là la nuit. Moi, je peux prier pour toi, là. On va rester les deux à la chapelle. Alors, il est venu. Il y avait Saint-Sacrement qui était exposé. Il y avait l'autel. Il avait pratiquement les ongles plantés dans l'autel. Ça avait été possible. Il tenait l'autel. À un moment donné, il s'est effondré de fatigue. Il a dormi au pied de l'autel. Moi, j'étais là, à côté. Je priais. Je dormais aussi un petit peu de temps en temps. Et le matin, c'était libéré. Il n'a plus jamais eu de tentation de partir acheter de la drogue. Il a pu repartir faire une formation quelques mois plus tard et tout. Et vous, d'un coup, on voyait cette force de Jésus, Eucharistie. À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Où pourrait-on aller ? Tu as la vie même, Seigneur. Et sans cette vie, je ne peux pas vivre. Et vous ? Donc quand on va adorer Jésus, c'est pour recevoir cette vie, pour être irradié. Il est le soleil de justice qui porte en ses rayons notre guérison. Il est celui qui nous transforme. Et nous étions... En Chine, l'année dernière, on a rencontré un jeune chinois athée, ne connaissant rien de Dieu. Et il voulait marcher avec nous dans les montagnes. Le soir, je célèbre la messe. Et on me dit, mais c'est quoi ce que vous avez fait là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, mais quoi? Il me dit, mais tout d'un coup, j'ai senti une joie dans mon cœur quand tu as pris le petit truc blanc et puis que tu as levé. Puis tu avais une drôle de gourde, puis t'as levé. Et c'est quoi ça? Alors j'y viens, on va s'asseoir, on va parler un petit peu. Et quelques nuits plus tard, dans une paroisse, on a fait nuit d'adoration. Il est resté toute la nuit devant le Saint-Sacrement, comme ça. Il ne bougeait pas, comme ça, toute la nuit. Et puis, le lendemain, il me dit, c'est l'amour qui est là. J'ai jamais été heureux comme ça de ma vie. J'ai senti l'amour qui remplissait mon cœur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ben, tu vois, ça c'est Dieu qui est là. Je veux aimer ce Dieu comme vous. Je dis, alors c'est même plus que moi peut-être. Et puis, mais je veux devenir comme vous. Comment on fait pour devenir chrétien? Je lui parle du baptême. Il faut me baptiser tout de suite. Je dis, peut-être pas. Il a été baptisé à Pâques, donc cette année. Et on le voit, mais fou amoureux de Jésus, Eucharistie, voyez-vous. Il a fait l'expérience que Jésus est là au Saint-Sacrement. Un jour, je donnais une conférence à la cathédrale de Grenoble, puis à la fin de la conférence, il y a une dame qui s'agitait un peu au fond de l'église. Alors je vais la voir, ils ont curé de la cathédrale, occupe-toi d'elle, et puis elle me dit, ça fait 30 ans aujourd'hui, 30 ans aujourd'hui. Je lui dis, mais 30 ans quoi? Elle me dit, 30 ans aujourd'hui que ma fille est sortie du coma. Et je ne savais pas que vous parliez de l'Eucharistie, c'était le... Enfin, je dis, mais attends, on se calme, dites-moi ce qui s'est passé. Alors, ma fille a eu un grave accident de voiture, elle était dans le coma, et au bout de 10 jours, je sens dans mon cœur qu'il faut qu'elle reçoive le corps du Christ. Alors je vais à la paroisse, je dis au prêtre, pourriez-vous apporter la communion à ma fille qui est dans le coma, qui est à l'hôpital? Elle dit, mais bien sûr, madame, avec grande joie, comment va-t-elle? Elle dit, elle est dans le coma. Elle dit, non, je ne peux pas apporter à quelqu'un qui est dans le coma. Mais dans mon cœur, je le sentais. Elle dit, non, faut, quand elle sera réveillée, j'irai, mais pas. 20 jours, elle retourne à la paroisse. Mon père, non, elle est dans le coma. 30 jours, non. 40 jours, non. 50 jours, le prêtre s'énerve en disant, vous ne revenez plus me casser les pieds avec ces histoires-là. Je ne suis pas d'accord. Elle revient à elle. Vous l'invitez, autrement pas. 51e jour, madame va à la messe. Elle prend l'hostie, elle prend une moitié. Elle court à l'hôpital. Et elle dit, ma fille reçoit le corps du Christ. Un quart d'heure après, la fille marchait. Elle n'était pas réveillée, elle marchait. Donc 50 jours d'immobilisation, physiologiquement, c'est impossible de marcher. Après, elle était debout, elle marchait un quart d'heure après dans la pièce. Elle me disait, mon père, vous croyez que j'ai mal fait? J'ai écouté, si Jésus a fait le miracle, à mon avis, c'est pas vous qui avez un problème, là, dans ce cas-là. Et donc, cette expérience de Jésus qui se donne à nous, cette rencontre personnelle. On vous dit, c'est le corps du Christ. Tout à l'heure, en communion, on vous dira, c'est le corps du Christ. Est-ce que nous sommes vraiment conscients? Voyez Marie-Madeleine qui se jette aux pieds de Jésus. Voyez la Samaritaine qui dit, mais donne-moi à boire. Voyez la pécheresse qui, étendue par terre, voit ce regard d'amour qui la relève. Voyez cette femme qui a des hémorragies et qui touche le manteau. Voyez ce mort Lazare qui entend la voix qui dit « Sors !» C'est le même Jésus qui est là. C'est le même Jésus qui est là. Et c'est pour ça qu'on doit venir avec un grand désir le rencontrer. Une grande faim, une grande soif. Voyez-vous ? Troisième point qui est important, source et sommet, ça c'est un petit peu la source. La source, c'est la folie de l'amour, c'est sa présence réelle, corporelle au milieu de nous. Le sommet, c'est ce qu'il veut faire avec nous. Et on pourrait dire qu'il y a deux grands sommets. Le premier, c'est nous renouveler complètement par le don de l'Esprit-Saint. Chaque messe est une Pentecôte. Vous savez que c'est au même endroit qu'il y a eu la première messe, au Cénacle, à Jérusalem, et qu'il y a eu, avec Marie et les apôtres, l'attente de l'Esprit-Saint qui va secouer les murs de ce Cénacle et, dans une force inouïe, va pousser les apôtres à sortir et annoncer la bonne nouvelle à la terre entière. Un ami prêtre me disait, c'est incroyable. Les apôtres sont là. Pierre sort après la Pentecôte, il fait un sermon, il y a 3000 conversions. Et moi, 3000 sermons et pas une conversion. Je dis, mais oui, il y en a eu des conversions, rassure-toi, pas de souci. Dans les secrets des cœurs. Vous voyez ? Donc tout d'un coup, il y a. C'est pas pour rien que là où a été célébrée la messe, là a été donné l'Esprit Saint. Mais on pourrait même aller encore un peu plus loin, voyez-vous ? Chez Saint Jean, la Pentecôte n'est pas comme chez Saint Luc dans les Actes des Apôtres, 50 jours après Pâques, qui reprenait d'ailleurs une fête juive qui s'appelle Shavuot, la fête des récoltes, et qui était en fait la fête aussi du don de la loi à Moïse sur le mont Sinaï. Et donc, c'était le plus grand cadeau que Dieu avait fait à l'humanité, la loi. Et là, Jésus investit cette fête juive, en réalisant ce que la loi, la Torah signifiait, qui avait saveur et goût, c'est le don de l'Esprit-Saint qui est la nouvelle loi intérieure, non plus écrite sur des tables de pierre, mais sur la table de chair de notre cœur et qui habite en nous. Donc Shavuot accomplit toutes les promesses de l'Ancienne Alliance et réalise dans une plénitude et inimaginable le don de la loi nouvelle qui est une personne qui est l'Esprit-Saint. Ça, c'est la Pentecôte de Saint-Luc, dans les Actes des Apôtres, mais Saint-Jean nous donne un autre aspect de la Pentecôte. Il annonce l'Esprit-Saint à un autre moment. Parce que chez Saint-Jean, Dieu est tellement pressé de venir sauver les hommes et de venir leur redonner un cœur filial qui n'est possible qu'avec le don de l'Esprit-Saint qu'il situe la Pentecôte à la croix même. À trois moments de la croix, on peut dire que le dernier souffle du Christ est déjà le premier souffle des croyants. Quand Jésus remet l'Esprit, les mots grecs, c'est Jésus transmet l'Esprit un peu comme on transmet un témoin. C'est pas il expira, on dit parfois quand une personne meurt, qu'elle expire, qu'elle rend son dernier souffle. C'est pas du tout ça. Dans le texte grec de Saint Jean, c'est il transmet l'Esprit. Cet Esprit qui habitait son humanité, avec lequel il vivait très bien depuis l'éternité avec son Père, eh bien cet Esprit est transmis sur l'Église naissante au pied de la croix. Mais Saint Jean va montrer de manière plus précise que le don de l'Esprit-Saint eh bien, se situe un peu après. C'était le jour de la fête des tentes, une grande fête juive où le peuple se rappelait son séjour dans le désert et rappelait notamment la providence divine qui avait pris soin durant ce long pèlerinage dans le désert. Et notamment, le dernier jour de la fête des tentes, on se rappelait le don de l'eau que Dieu avait fait à son peuple. Et symboliquement, le grand prêtre descendait jusqu'à la fontaine de Siloé, en dessous du temple de Jérusalem, allait chercher de l'eau, remonter sous les grandes acclamations de la foule jusqu'au temple et verser l'eau sur l'autel du temple. Toute une symbolique, je ne vais pas expliquer maintenant, mais très intéressante. Mais toujours est-il que les gens chantaient Alléluia, Hosanna, chantaient la gloire de Dieu. Tout Jérusalem était illuminé de torches, de bougies. Enfin, c'était comme en plein jour. Il pouvait y avoir jusqu'à 100-200 000 personnes à Jérusalem à ce moment-là. Et à ce moment-là, quand le grand prêtre remonte dans cette acclamation solennelle, Jésus va crier en disant « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, car il est écrit de son sein jailliront des fleuves d'eau vive. » Il parlait de l'Esprit-Saint qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui après sa glorification, c'est-à-dire après sa passion. Et donc, il cite un prophète, le prophète Zacharie de l'Ancien Testament, qui annonce cette effusion de l'Esprit-Saint à partir des fleuves d'eau vive qui vont jaillir de son cœur ouvert. Et donc, il annonce la Pentecôte à ce moment-là. C'est assez intéressant parce que le mot grec utilisé par saint Jean, c'est « il crie ». Mais le mot « crier », c'est le mot qu'on utilise pour les corbeaux. Jésus crie comme un corbeau. Et habituellement, dans l'Écriture sainte, c'est plutôt les démons qui crient comme ça. La foule qui hurle « à mort, à mort, à mort ». Il n'y a que Jean-Baptiste et Jésus qui crient positivement comme un corbeau. Alors on se dit, mais pourquoi il utilise un mot comme ça? C'est pas très bien, saint Jean, de dire des choses pareilles. Sauf que si vous remontez à la Genèse, vous voyez que dans l'histoire du déluge de Noé, eh bien, avant que l'Esprit-Saint n'apparaisse sous la forme d'une colombe, enfin que la colombe vienne sur la terre, la glaise, Adama, pour la revivifier, eh bien, Noé va envoyer un corbeau qui va et vient en permanence. Et Jésus est celui qui précède le don de l'Esprit-Saint, le don du corbeau, de la colombe. Vous voyez, il est le corbeau qui précède le don de la colombe. Donc on comprend mieux pourquoi saint Jean utilise ce verbe pour parler du cri que Jésus va pousser à ce moment-là. Et donc, la Pentecôte pour saint Jean, c'est le cœur ouvert du Christ sur la croix. C'est là qu'avec l'eau et le sang qui jaillissent, l'effusion de l'Esprit-Saint est donnée. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir que dans la tradition juive, dans les commentaires rabbiniques de la tradition juive, il y a toute une chronologie du péché originel. On nous dit en particulier que à la 9e heure, Dieu a donné la loi à nos premiers parents. À la 10e heure, ils ont commis le péché originel, ils ont perdu la loi. Et à l'11e heure, ils ont été chassés du paradis. Or, la première rencontre des apôtres avec saint Jean, et saint Jean et saint André, pardon, dans l'évangile de saint Jean, c'est, on nous dit qu'ils, Rabbi, où demeures-tu ? Ils allèrent, ils regardèrent, ils passèrent la journée avec lui, ils revinrent, c'était vers la 10e heure. Ah, dis donc, Mais on se dit, mais pourquoi ce détail, 2000 ans après, qu'il soit 2h, 5h ou 18h, enfin, 10e heure, c'est vers 4h de l'après-midi, hein, non ? Voilà, donc c'était vers 4h de l'après-midi, vers la 10e heure. Et on se dit, mais pourquoi ce détail, alors que l'important, c'était, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'avez-vous vécu en demeurant avec lui ce jour-là ? Rien. Et à la fin de l'évangile de Saint Jean, les heures reviennent. À la 6e heure, à midi, c'est-à-dire une grande ténèbre se fait sur toute la terre. À la 9e heure, Jésus poussant un grand cri, remis l'esprit, et avant que les premières lumières du Shabbat ne s'illuminent, vers 5h30 à cette période de l'année, eh bien, les soldats sont venus pour vérifier si les condamnés à mort étaient décédés, et à Jésus, ils percèrent le cœur qu'on peut situer vers la 10e heure. C'est comme si Dieu disait, dès le début, où tu demeures ? On aimerait bien savoir où tu es, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Où demeure-t-il, l'agneau de Dieu qui enlève ? Venez à la 10e heure, vous allez comprendre. Oui, mais à quel moment la 10e heure ? Eh bien, quand le cœur éclatera. Et voyez-vous, comme si Dieu ne pouvait pas supporter que l'homme soit séparé de lui. Si c'est vers la 10e heure que nos premiers parents ont commis le péché originel, c'est vers la 2e heure qu'il redonne ce que nous avions perdu, l'Esprit Saint qui fait de nous des enfants de Dieu, des filles et des fils du Père. Bien sûr, il y a eu quelques milliers d'années entre deux, sans doute, mais dans le plan de Dieu, c'est la même 10e heure où s'effectue et la perte de l'Esprit Saint et la retrouvaille de l'Esprit Saint. Que fait cet Esprit Saint ? Eh bien, il prie en nous en gémissement ineffable, en criant « Abba Père ». Nous retrouvons la dignité perdue. Nous retrouvons le seul trésor qui peut nous donner la paix et la joie du cœur, Dieu même. Je suis le fils et la fille du bon Dieu. Un jour ici à Paris, il y a 2 ans en arrière, je rentre dans le métro, il y a une classe, enfant de 5-6 ans, qui prennent d'assaut le wagon, avec quelques adultes qui essayaient d'encadrer comme ils pouvaient. 3 filles s'assoient en face de moi, 5-6 ans, et une commence à insulter l'autre avec une violence inouïe, vraiment méchamment. Moi, ça boue au fond de moi-même, je regarde les adultes et les enseignants, personne ne bouge, ça continue à insulter, la fille qui est insultée ne réagit pas, je dis la pauvre, c'est le souffre-douleur de la classe, elle est complètement inhibée, donc elle n'arrive même plus à réagir à ça, elle va être en destruction psychologique totale. Et une fois que la première a terminé sa litanie d'injures, la petite fille qui est au milieu, qui est insultée, lève les épaules et dit « Moi, je m'en fous, je suis la fille du bon Dieu. » Eh bien, ce n'était pas une fille, une femme inhibée, c'est une femme libérée. Je suis la fille du bon Dieu. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Toi, tu es faillible. Tu me traites de tous les noms d'oiseaux, mais tu as peut-être tort. Il n'y a qu'une parole qui est vraie et qui est infaillible. Tu es la fille bien-aimée du Père. Avec une sorte de détachement et de liberté intérieure, j'étais bluffé, je peux vous dire. Hein. Moi, j'étais prêt à dire, je vais m'y mettre. Ben, l'Esprit Saint fait mieux que moi, voyez-vous. Il n'y a qu'une grande douceur, lui dire, ben, je m'en fous, je suis la fille du bon Dieu. Vous voyez, ça, c'est l'effusion de l'Esprit Saint. Ça, c'est la révolution du monde. Ce monde qui s'était éloigné du Père, ce monde qui avait quitté l'orbite paternelle, si j'ose dire, par le péché, revient par le Christ, le Fils unique, vers le Père par le don de l'Esprit Saint. Et donc, c'est le retour filial, ce que saint Paul appelle le mystère de la piété, le retour filial de toute l'humanité et par l'humanité de tout le cosmos vers le Père. Puisque le cosmos est aussi lié à ça. Saint Paul nous dit dans l'Épître aux Romains, la création tout entière gémit dans les souffrances de l'enfantement, attendant la révélation des enfants de Dieu. C'est-à-dire, attendant que les hommes se comportent comme des enfants de Dieu. Et donc, la crise écologique n'est pas d'abord une question de CO2, même si c'est aussi ça, c'est pas qu'une question de destruction de la création, c'est un révélateur d'une humanité qui s'est éloignée du cœur du Père, qui ne vit plus dans le souffle de l'Esprit Saint, qui ne vit plus dans cette Pentecôte douce et puissante qui ne cesse de jaillir du cœur du Christ et qui irradie nos cœurs pour qu'on soit dans l'abandon filial des enfants de Dieu, fils et fille du Père du ciel. Je m'en fous, je suis le fils du Père, je suis la fille du Père. « Ah bon, c'est quoi ton titre de noblesse, fille du Père du Ciel ?»« Ah ben c'est magnifique !» Qui peut avoir un plus grand titre de noblesse que celui-ci ? Même Saint Louis en serait jaloux, voyez ? Ah, pas de problème. Et d'ailleurs c'était ça, il s'appelait Saint Louis de Poissy, parce qu'il dit « c'est là que je suis devenu enfant de Dieu ». Et l'autre titre ne m'intéresse pas, mon seul titre de noblesse, et ma seule joie et mon seul bonheur, c'est d'être de Poissy. Là, dans les fonts baptismaux, je suis devenu enfant de Dieu. Voilà. Alors, là, on a touché le cœur du mystère, voyez-vous. Là, on est au sommet. Alors, ce que nous sommes par grâce, par le baptême, l'Eucharistie va devoir le déployer en nous, nous libérer de plus en plus, nous façonner de plus en plus. Et que tout cela se manifeste. Un jour, le grand sculpteur Michelangelo Buonarroti, Michel-Ange, va visiter une carrière et voit un grand bloc de marbre devant et est assez fasciné par ce bloc de marbre et demande de l'acheter. Et le carrier dit « Non, écoutez, c'est pas possible, regardez, la pierre est fondue, venez voir derrière, c'est pas une bonne pierre. » Il dit « Je vous l'achète quand même. » Il dit « Non, mais je peux pas vous le vendre, ça va pas, ça fait 10 ans que c'est là, personne veut prendre cette pierre. » Il dit « Mais je vous l'achète quand même. » Et il dit « Mais prenez-le, c'est gratos. » Alors il part et une année après, le carrier vient visiter l'atelier de Michel-Ange et voit une statue, mais absolument sublime, splendide. Et business is business, il dit « Mais d'où vient le marbre ?» Il dit « Mais c'est le marbre qui était devant votre atelier, dans votre carrière. » Il dit « Mais c'est pas possible, comment vous avez fait ?» Il dit « Mais quand j'ai passé devant le bloc de marbre, la statue m'a crié « Sors-moi de là, ça fait tellement longtemps que je suis enfermé dedans. » Alors je n'ai rien fait, je n'ai fait que dégager de la pierre la statue qui s'y trouve déjà. Moi j'ai essayé une fois, je n'ai pas réussi. J'avais un bloc, c'est pas ça, rien donné. Donc il faut avoir un talent quand même pour faire ça, voyez. Mais c'est ça, on a en nous depuis le baptême l'enfant de Dieu. Et Dieu veut dégager des scories du péché, des scories de l'égoïsme, des scories de l'orgueil, des scories des blessures, cet enfant de Dieu. Et cette effusion de l'Esprit-Saint qui nous simplifie jusqu'à la transparence de l'enfant, eh bien c'est la grâce eucharistique, c'est l'adoration qui va le faire, voyez-vous. Dieu nous simplifie, il nous libère de tout ce qu'on a rajouté par-dessus. Une sœur qui était au Carmel avec Thérèse de Lisieux lui dit « Mais, ah Thérèse, qu'est-ce que j'ai encore à acquérir pour devenir comme vous ?» Et Thérèse lui dit « À perdre, vous voulez dire ma sœur, à perdre pour devenir comme moi. » Non pas acquérir, mais à perdre, à être simplifié. Et ça, c'est la grâce de l'Esprit-Saint, voyez-vous. Jusqu'à ce qu'on soit comme le Christ dans cette liberté intérieure totale, cette transparence totale, qui est le rayonnement de l'Esprit en nous. Et cette transparence n'est pas extraordinaire, magique. Elle se vit dans la charité au quotidien, dans les actes de pardon au quotidien, dans les actes d'attention au quotidien. Dans le très beau texte du pape François qui parle de la sainteté pour tous, « Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse », le modèle qu'il donne est assez simple. Il dit, voyez-vous, eh bien, vous allez prendre, imaginez maman qui est au marché et elle commence à parler avec des amis et on commence à critiquer. Elle refuse de critiquer. Premier pas de la sainteté. Elle rentre à la maison, ses enfants sont là, l'attendent, ils lui posent plein de questions alors qu'elle a des choses à faire. Elle s'arrête, elle prend un peu de temps avec eux et elle accepte. Deuxième pas vers la sainteté. Tout d'un coup, elle angoisse parce qu'elle n'a pas fait ce qu'elle devait faire. Elle se tourne vers Marie, elle tient la main de Marie. Troisième pas vers la sainteté. Elle ressort chercher quelque chose, elle voit quelqu'un au bord de la rue, un pauvre qui est là, elle lui dit deux, trois mots. Quatrième pas vers la sainteté. Vous voyez, chaque occasion de la vie est une occasion de grandir dans la sainteté. Et c'est l'Esprit-Saint qui va nous rendre attentifs à ces actes d'amour. Donc ce n'est pas extraordinaire dans les actions extérieures, c'est puissamment extraordinaire dans la mouvance intérieure de l'Esprit-Saint. Et finalement, eh bien, le sommet, c'est cette union avec Dieu. Cette union avec Dieu. Un jour, on le verra face à face. Celui qu'on voit sous le voile, on le verra face à face au ciel. L'Eucharistie, c'est déjà le ciel sur la terre. Les pères de l'Église disaient que, on dit dans la première prière eucharistique, que cette offrande soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste. Ouais, et on pourrait dire que là, c'est la gloire qui descend, même. Saint Grégoire de Nazianze disait qu'à la messe, tous les anges étaient là autour. T'es là, il va venir, voyez, en attente comme ça. Tout le ciel était là, présent autour de l'autel. Et donc l'Église est bondée à ce moment-là. Il y a nous qui sommes là, mais accompagnés, soutenus par le cœur des anges, qui eh bien, est là, adorant l'agneau de Dieu, celui-même qui siège sur le trône au ciel et que l'Apocalypse nous décrit avec ses myriades d'anges, tous ces vieillards, tous ces saints, tous ceux qui sont remplis de la vie de Dieu, c'est ça les vieillards, ceux qui sont pleins de la vie de Dieu, qui se prosternent, disant à l'agneau de Dieu, gloire, honneur et louange, amen, amen, amen. Et chacun répète « Amen, Amen, Amen » à l'agneau de Dieu, eh bien, c'est le même agneau de Dieu qui est rendu présent là. Donc, c'est le lieu de charnière entre le ciel et la terre. C'est le lieu où, où vraiment ce Dieu, Jésus, fait homme, monté au ciel avec son corps stigmatisé, demeure avec son corps stigmatisé, c'est-à-dire pauvre sous l'apparence du pain et du vin, au milieu de nous, et c'est le même agneau que nous adorons. Au point que, quand Thérèse a fait sa première communion, Thérèse d'Enfant Jésus, elle avait perdu à 4 ans et demi sa mère, vous savez, elle est à 13 ans pour faire sa première communion, et on lui dit, mais oh, tu dois regretter que ta maman n'est pas là. Elle dit, mais non, aujourd'hui c'est le jour de gloire et de joie, parce que ma maman, jamais j'étais aussi proche de ma maman en recevant le corps de Jésus. C'est le même agneau qu'elle voit au ciel et c'est celui que je reçois. On n'a jamais été aussi proche qu'aujourd'hui. L'Eucharistie nous rapproche le ciel et la terre. L'Eucharistie unit le ciel et la terre, rend présent le ciel sur la terre et élève déjà la terre vers le ciel. Jusqu'au jour où tout ça sera uni et transfiguré par la venue en gloire du Christ. Voyez-vous, donc l'Eucharistie dans le sommet nous sanctifie et l'Eucharistie dans le sommet rend présent déjà ce ciel. Non pas comme une désincarnation, parce que le ciel ne désincarne pas, et on ressuscitera avec notre chair un jour, mais cette chair du Christ ressuscité assume déjà cette présence et cette transformation du monde. Et déjà, c'est Saint Jean Chrysostome, un père de l'Église, qui disait ça, déjà la matière est comme divinisée, puisque ce pain fait de blé transformé en farine, cuit, eh bien devient Dieu. Et ce vin, des grappes de raisin broyées, fermentées, devenu vin, devient Dieu. Et déjà, la matière de l'univers est transfigurée dans le mystère eucharistique. Déjà, les cieux nouveaux et la terre nouvelle sont présents à travers le mystère de l'Eucharistie. Déjà, quelque chose se produit qui change tout à notre histoire. Alors, c'est ce qu'on va célébrer maintenant avec la messe dans quelques minutes. Amen.